Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Quand on parle d'écologie et d'inégalité sociale, on a tendance à regarder d'un mauvais œil les entreprises et encore plus la finance. Et aujourd'hui, je reçois Bertrand Badré, qui a été le directeur général de la Banque mondiale de 2013 à 2016, le directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement, changer le monde ?» Il est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Like an Orange. Et avec lui, on va vraiment aborder la compréhension du système. Comment ça marche? Pourquoi on n'arrête pas de parler de croissance? Qu'est-ce que c'est que la croissance? D'où ça vient? C'est quoi l'histoire? Pour essayer de voir aussi comment ce système il peut évoluer, changer éventuellement, puisqu'on en a besoin, et voir comment la finance peut avoir un impact positif dans la transformation responsable dont la société a besoin. C'est une discussion qui est passionnante, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bertrand.
Bonjour Grégory.
On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut sembler rébarbatif et surtout, entre guillemets, ennemi, qui est la finance. J'aimerais d'abord comprendre, parce que c'est pas commun de parler de finance et de développement durable. En général, on a tendance à penser que ça s'oppose, puisqu'on a tendance à penser que la finance est très court terme et que les problématiques écologiques et sociales sont plutôt très long terme. On va y revenir. C'est quoi le fondement de notre système? Comment ça fonctionne aujourd'hui?
Alors, le système dans lequel on évolue aujourd'hui, le paradigme, ce qui finalement, pour faire du marxisme un peu simpliste, l'infrastructure qui porte le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a émergé dans les années 70. Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on va célébrer, ou en tout cas noter le 13 septembre, le 50e anniversaire d'un article fameux de Milton Friedman, le grand économiste de Chicago, dans le New York Times. C'est le fameux article où il dit « L'objet social de l'entreprise est de faire du profit ». Ça aura 50 ans dans quelques jours. Et c'est important de garder ça à l'esprit parce que ce n'est évidemment pas tout ce qui porte le système, mais c'est ce qui le symbolise au plus haut point. Et qui est parfois d'ailleurs un peu caricaturé. Et Milton Friedman était un économiste génial, un type très très intéressant, et donc résumer sa vision de la finance à ses seuls quelques mots serait un peu excessif. Il a d'ailleurs dit et écrit que c'était vrai dans la limite de l'acceptation par la société. Mais comme c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, on a laissé tomber la note de bas de page et on s'est contenté de dire, bon voilà, on va maximiser le profit. Ce qui s'est traduit de manière, je dirais, managériale par ce qu'on a appelé la valeur actionnariale, le capitalisme actionnarial, le shareholder value, shareholder capitalism en anglais, ce qui s'est traduit sur le plan politique par la révolution conservatrice en Grande-Bretagne avec l'élection de Margaret Thatcher en 79 et aux États-Unis avec l'élection de Ronald Reagan en 80 et puis évidemment dans tout l'Occident et même en 89, croyait-on, sur l'ensemble de la planète, c'était la fin de l'histoire. L'économie de marché dans sa version années 80 avait triomphé et on allait voir ce qu'on allait voir. Donc c'est ça le cœur. Alors ça s'est appelé, ça s'est décliné, ça s'est appelé, moi qui ai travaillé un peu à la Banque mondiale, le consensus de Washington qui était d'une certaine manière la potion conservée aux gens qui bénéficiaient du soutien international. Alors là aussi, il ne faut pas la caricaturer, mais c'est vrai que dans les principaux attributs de ce consensus, dans les principaux attributs de ce modèle néolibéral ou de cette révolution conservatrice, enfin, il y a plusieurs noms, il y a effectivement la privatisation, la déréglementation, l'ouverture des frontières, le commerce, enfin, autant de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Et la réalité, c'est que ça a quand même plutôt bien fonctionné au début. Les frontières se sont ouvertes, c'est vrai qu'avec avec l'effondrement de l'Union soviétique et, croyait-on, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, bah, finalement, on avait une planète qui adhérait à peu près au même corpus de règles. Et on a dit, bah, ça y est, c'est gagné. Et on s'est réveillé avec la gueule de bois en 2007-2008 parce que ce système qui avait plutôt bien fonctionné a montré ses limites, s'est fracassé. Et en 2007-2008, finalement, on ne s'est pas posé la question du système. On a fait de la médecine d'urgence, on a fait du bouche à bouche, on a colmaté les brèches, on a et d'une certaine manière, on a réussi. On n'est pas mort. On ne serait pas là pour en parler si, si on n'avait pas empêché l'effondrement complet après la faillite de Lehman Brothers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas répété les erreurs des années 30, on n'était pas à la veille d'une troisième guerre mondiale, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas profité de cette crise pour traiter au fond les faiblesses qui étaient révélées ce drame du subprime. Et donc on se retrouve 10 ans après avec une nouvelle crise qui n'est pas une crise financière, mais qui montre qu'on n'a pas traité ces problèmes. Et donc aujourd'hui, on vit encore très largement sur ce paradigme de l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit au bénéfice de l'actionnaire. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un biais court-termiste. Et deuxièmement, c'est un biais très financier. Et donc, ça, c'est pas forcément des choses que les gens comprennent ou ont envie d'entendre, mais ça rythme, pour tous ceux qui travaillent dans ces fonctions, ça rythme leur vie. La manière dont on compte les choses, la manière dont on paye les choses, la manière dont on raconte les choses, bah, elles sont liées à un certain nombre de principes. Et donc, on en est là aujourd'hui. C'est un système qui a une date de naissance, qui a eu des développements, qui aura peut-être une date de mort. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. Et donc, on a un rythme. Bah, ce rythme me fait penser que il faut qu'on passe à une autre étape.
C'est ça. C'est ce que décrit un peu le sociologue Michel Maffezoli quand il dit, en fait, on est en train de changer de période complètement, où on est en train de passer à une période qui était très individualiste, à quelque chose qui est beaucoup plus autour des tribus, quelque chose qui était très ancré dans le capitalisme, à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, ou en tout cas moins dans cette histoire de progrès, de croissance.
Alors, je pense qu'il faut en partie l'espérer. Je ne suis pas sûr que c'est pas automatique. Mm-hmm. C'est pas automatique. La force de la formule l'objet de l'entreprise est de faire du profit, elle est extraordinaire. Enfin, faut pas se raconter d'histoire. Ce qu'on appelle l'utilitarisme économique, vous valez ce que vaut votre valeur ajoutée. C'est compliqué à contrer dans la vraie vie. Ça rentre bien dans le tableur Excel, hein. Donc pour l'en sortir, il va falloir un peu ouvrir le capot, mettre les mains dans le moteur, sortir le tournevis et la clé et se salir les mains,
hein. Et alors justement, aujourd'hui, en fait, c'était intéressant. On parle beaucoup de croissance, on n'arrête pas de dire il faut de la croissance, il faut de la croissance, en particulier à sortir de cette crise sanitaire. Tout le monde parle de croissance, les politiques parlent de croissance. Et d'un autre côté, on voit bien que ce système, il a des limites. D'abord parce que les ressources minières sont limitées, mais aussi tout simplement parce qu'on pollue beaucoup trop, c'est évident, et qu'on ne sait pas découpler, enfin, à ce que je sache, la croissance financière et la croissance de la pollution, à moins que vous ayez...
Je suis venu sans ma baguette magique.
Avec la baguette magique. C'est quoi la croissance comment on fait? Moi, j'ai vu des gens au MEDEF cet été rire quand on a commencé à leur parler de décroissance et de peut-être du fait que les gens allaient moins travailler. Donc, ils se sont moqués de la personne qui disait ça.
De même que je parlais de l'anniversaire de Milton Friedman, l'an dernier, on fêtait, si je puis dire, on se rappelait le 90e anniversaire du crack de 1929. Et c'est intéressant parce que c'est la dernière très grande crise qu'on a très mal gérée. Ça s'est fini en dépression, guerre mondiale, tragédie. Donc, voilà. Heureusement, on n'a pas revécu ce film. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après la Grande Dépression de 1929, c'est le moment où on a commencé à changer nos instruments de mesure. Ça fait pas la une des journaux.
C'est là où on a créé le PIB, c'est ça?
On a fait deux choses. Et de manière très intéressante, on a créé la comptabilité nationale, essentiellement d'ailleurs avec un apport français-américain, avec des Anglais aussi. Et donc c'est là que Keynes parlait de demande agrégée, et on a commencé à dire que ces demandes agrégées, ça ressemble au PNB, comment ça marche, et on a commencé à calculer et à mesurer ce qui est devenu la croissance. Donc ça date vraiment le thermomètre public, il date de l'après 1929. La crise a poussé à dire comment on mesure. Et c'était finalement assez aligné avec les approches keynésiennes. Et on a vécu avec ce thermomètre. Ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, en 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait mandaté Joe Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi pour réfléchir à une nouvelle mesure. Ils ont fait un rapport, puis qui n'a pas été suivi d'effet. Mais il avait eu cette intuition, il faut lui reconnaître ça, il avait eu cette intuition qu'effectivement, il y avait peut-être un problème de mesure. C'est pas forcément le mot croissance, c'est pas forcément un gros mot, et le mot décroissance, un autre gros mot. C'est peut-être qu'on mesure pas la bonne chose et qu'on ne prend pas de la bonne manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi après la crise de 29 qu'on a changé la comptabilité privée. Donc on a, en particulier parce que Roosevelt a créé la SEC, donc l'organe de régulation des marchés, et la SEC a dit qu'il faudrait que les gens comptent de la même manière. Mmh. Et donc a forcé à ce qu'on a appelé, pardonnez-moi d'être jargonnant, les GAAP, les Globally Accepted Accounting Principles, pour dire on va tous compter plus ou moins de la même manière. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la faillite de 29 a abouti à déterminer le thermomètre public et le thermomètre privé, qui sont comment mesure-t-on le profit de l'entreprise et comment mesure-t-on la croissance du pays. Et moi, je crois que quand on prend la période de la crise financière 2008-2010 jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui et probablement encore quelques années, c'est peut-être le moment de se poser la double question de est-ce qu'il n'est pas temps de changer de thermomètre public et de changer de thermomètre privé. Donc, ce n'est pas de rentrer dans un débat sur la croissance, pas la croissance, etc. C'est de savoir, mais au fond, que veut-on mesurer? Comment veut-on le mesurer? Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors moi, il y a un mot que je préfère de beaucoup au mot croissance, c'est le mot développement. La croissance, si on veut être un peu provocateur, c'est le cancer. D'une certaine manière, ça prolifère, ça métastase, et puis ça croît dans toutes les directions. Et c'est l'exemple bien connu. Si je prends ma voiture et que je fais 100 fois le tour du périphérique, c'est très très bon pour le PNB. Si j'ai un accident de voiture, c'est encore meilleur. C'est absurde, on voit bien, enfin, c'est un exemple provocateur.
Non, mais...
Donc la croissance en soi, c'est...